puisque ce soir mercredi ainsi que demain la journée de jeudi, nous célébrons la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai Lag BaOmer, à la date du 33e jour du Omer, comme telle est la tradition. Nous allons dire quelques propos extraits d'une derasha de notre maître Maran Rav Avodah Yosef Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qu'il a prononcé un jour de Lag BaOmer. Tout d'abord le piyout, le célèbre, très célèbre piyout traditionnel Bar Yochai. Le soir de Lag BaOmer, tout le monde a l'usage de chanter le célèbre piyout, poème liturgique Bar Yochai. Ce piyout a été écrit par le grand kabbaliste Rabbi Shimon Lavi, Zecher Tzadik Livracha, qui est né en Espagne il y a plus de 500 ans et s'est réfugié à Fès au Maroc, puis il a fait le vœu d'émigrer en Israël pour y finir ses jours. Pendant son voyage vers Israël, Rabbi Shimon Lavi passa par la ville de Tripoli en Libye. En arrivant dans cette ville, il constata que la communauté juive locale n'était pas très pratiquante et elle comptait même de nombreuses personnes qui ne connaissaient absolument pas la Torah. Pour exemple, il priait naïvement durant le Shabbat les mêmes prières que les jours de semaine, etc. Rabbi Shimon Lavi prit donc la décision de rester dans cette ville en demandant à Hachem de lui pardonner la non-observance de son vœu, qu'il fit annuler selon les règles, puisqu'il considéra qu'il était une plus grande mitzvah d'ouvrir les yeux des juifs de Tripoli plutôt que d'émigrer en Israël. En effet, il resta à Tripoli et enseigna beaucoup de Torah à la communauté juive. Il restaura la couronne de la Torah dans son prestige. Il rédigea donc le fameux piyout et célèbre piyout Bar Yochai en l'honneur du saint Tana, le Tahatana Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom. Rabbi Shimon Lavi inséra les lettres de son nom entier au début de chaque strophe, ce qu'on appelle les acrostiches. Comme on peut le constater, vous voyez bien dans les strophes du piyout Bar Yochai, par exemple la première strophe « Shemen Mishhat Kodesh » commence par la lettre « Shin ». Ensuite la deuxième « Moshav Tov Yashavta » commence par la lettre « Mem ». Ensuite la strophe « Atse Shittim Omedim » commence par la lettre « Ain ». Ensuite « Velisde Tapuhim » commence par la lettre « Vav ».« Ne'ezarta Bigvura » par la lettre « Nun ». Limkom Avneshaish par la lettre Lamed, Bekodesh Akodashim par la lettre Bet, Yud Chochma Keduma la lettre Yud, Or Moufler Ummaala la lettre Aleph, ce qui forme Shimon Lavi, Shin Mem Ain Vav Nun Lamed Bet Yud Aleph. La dernière strophe de ce piyout Bar Yochai nous dit, je traduis, Bar Yochai, heureuse celle qui t'a enfanté, heureux le peuple qui étudie tes paroles, heureux ceux qui maîtrisent tes secrets. Il s'agit bien de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était habitué à réaliser des miracles, voire pour cela la Gemara Maseret Me'ila Daf Yud Zayin Amud Aleph. Rabbi Shimon Bar Yochai était l'un des 5 derniers élèves de Rabbi Akiva qui ont sauvé l'enseignement de la Torah dans le monde à leur époque. Rabbi Shimon Bar Yochai s'illustre particulièrement par les secrets de la Kabbalah, l'explication mystique de la Torah, qu'il a transmis à ses élèves, ainsi que par le livre du Zohar HaKadosh qu'il a aussi enseigné à ses élèves. Hachem a fait bénéficier à ce piyout Bar Yochai d'une grâce particulière, au point où tout le monde le chante, même nos frères les Ashkenazim. En effet, dit notre maître, le Rav Alav Shalom, quel piyout Ashkenazi est chanté chez les Ashkenazim? C'est quelque chose de quasi inexistant, alors que le piyout Bar Yochai est chanté par tout le monde, sans exception. À l'époque médiévale, à l'époque des Rishonim au Moyen-Âge, vivait en Espagne Rabbi Avraham ibn Ezra. Il était un hacham très critique. Il n'hésitait pas à émettre sa critique personnelle sur les choses. Et il faisait partie des grands poètes juifs d'Espagne. À son époque, le grand de la génération dans le monde ashkénaze n'était autre que Rabbeinu Tam, alav shalom, le petit-fils de Rashi. Et Rabbeinu Tam écrivit un jour un piyout et l'envoya de France en Espagne à Rabbi Avraham ibn Ezra, pour qu'il donne son avis sur le piyout. Et Rabbi Avraham lui envoya sa réponse. Alors je préfère vous préciser qu'ici, le dialogue entre ces deux sages d'Israël a une consonance tout à fait lyrique en termes hébraïques, en langue hébreu, qu'il est assez difficile de ressentir en français, mais on va quand même donner une traduction. Je vais d'abord le dire. Dire chaque réponse du dialogue en hébreu pour les hébraïsants, pour pas gâcher la beauté de la chose, mais je traduirai également en même temps. Voici la réponse que Rabbi Avraham ibn Ezra envoya à Rabbeinu Tam sur le piyout qu'il avait écrit. Il lui a dit Rabbi Avraham à Rabbeinu Tam, Umi hevi le tsarfati bevet shir, ve'avar zar mekom kodesh veramas. Il lui a dit, qui a mené un Français dans la maison du champ et comment un étranger a-t-il traversé un lieu saint et l'a piétiné? L'explication de la réponse est, vous, en France et en Allemagne, possédez la compréhension du Talmud. Vous êtes très fort dans le chasse, dans le Talmud, dans les Gemarot. Pourquoi entrez-vous soudainement dans l'écriture de chansons? Le chant des Juifs espagnols est bien meilleur. Voilà ce qu'il a voulu lui dire. Et ensuite, Rabbi Avraham Ibn Ezra a poursuivi et il écrit encore à Rabbi Noutam dans sa réponse. Il lui dit, Velu Shir Yaakov Imtak Kemoman Ani Shemesh Veham Shimshi Venamas. Il lui dit, et quand bien même le chant de Yaakov, alors Yaakov c'est Rabbeinu Tam, il s'appelait Rabbeinu Yaakov Ben Meir, quand bien même le chant de Yaakov serait doux comme la manne, moi je suis le soleil, et mon soleil réchauffe et fait fondre, sous-entendu, la manne. Et il lui écrit encore, il lui dit, Uma lecha bashirim ashekulim, vedai lecha bashir hodu ve'ana. Il lui dit, qu'as-tu à faire, toi, Rabbeinu Tam, qu'as-tu à faire avec des champs construits? Ici, il s'agit, on parle de construction, il s'agit des champs, des piyutim, dont les sages d'Espagne avaient l'art de composer, de rédiger, qu'ils étaient construits sur l'équilibre des syllabes. Il lui dit, qu'as-tu à faire avec des champs construits? Les champs Hodou et Anna te sont suffisants. L'explication de sa réponse, c'est il veut lui signifier que les chants de Tehilim, Hodou, Lachem Kitov, et Anna, Hachem, Moshe, Anna, ces choses qu'on lit dans le Hallel, par exemple, lui sont suffisants. Telle a été la réponse vraiment très, très costaud de Rabbi Avraham Ibn Ezra à l'adresse de Rabbi Noutam sur le piyout qui lui montrait qu'il avait rédigé. Maintenant, constatons avec quelle humilité Rabbi Noutam lui répond. Il lui dit, je continue en hébreu pour les hébraïsants, Avi Ezri, Yeshivuhu Se'ipav, Asher Natan Yedido Ben Arapav, Ani Eved le Avraham le Mikna, Va'akudda Ve'eshtahave le Apav. Wow. Il lui dit Rabbeinu Tam, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il lui dit, Avi Ezri. Alors, Avi Ezri, c'est une allusion au nom de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Avi, c'est Avraham, et Ezri, c'est Ezra. Et Avi Ezri, ses pensées causées par l'intrusion de son ami entre ses ailes, lui répondent, je suis le serviteur acquis à Avraham, donc sous-entendu acquis à toi, je suis ton acquisition, toi, Rabbi Avraham Ibn Ezra, et je m'agenouille et me prosterne devant sa face. Ainsi, Rabbeinu Tam répondit avec une extraordinaire humilité, je suis le serviteur acquis à Avraham. Quand Rabbi Avraham Ibn Ezra reçut cette nouvelle lettre, il lui répondit à son tour avec une grande humilité. Et il lui dit, Hanachon el Aviraham el Veroam, le Hashpil Rosh Bemichtav el Bezuyam. Rabbi Avraham Ibn Ezra lui dit, est-ce qu'il sied à un prince et un berger du peuple de Dieu, c'est-à-dire toi, Rabbeinu Tam, d'abaisser sa tête dans une lettre adressée à un méprisable du peuple, c'est-à-dire moi, Rabbi Avraham Ibn Ezra. Il lui dit, Halila le malacha elokim asher yikod veishtahave le Bil'am. Il termine Rabbi Avraham Ibn Ezra avec lui aussi beaucoup d'humilité. Il lui dit, qu'à Dieu ne plaise qu'un ange de Dieu s'agenouille et se prosterne à Bil'am. Et il met Rabbeinu Tam au niveau d'un malach d'Hashem et il se met lui-même, chas v'shalom, kaviyachol, au niveau de Bil'am Rasha, chas v'shalom. Après les propos très humbles de Rabbeinu Tam qui lui a écrit « Je m'agenouille et me prosterne devant sa face », Rabbi Avraham Ibn Ezra lui répond lui aussi avec beaucoup d'humilité « Qu'à Dieu ne plaise qu'un ange de Dieu s'agenouille et se prosterne à Bil'am ». Quelle humilité! On constate que, on sait très bien, il est de notoriété que les Sfaradim se sont particulièrement illustrés dans la sagesse du piyout, alors que les Ashkenazim ne s'y sont pas particulièrement adonnés. Mais Rabbi Shimon Lavi, qui a composé le piyout Bar Yochai, a eu le mérite que son piyout en provenance de Tripoli, en Libye, se propage dans toutes les communautés d'Israël, aussi bien chez les Sfaradim que chez les Ashkenazim. Une histoire au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Midrash Rabba sur Shir HaShirim, chapitre 1, ainsi que dans Pesikta de Rav Kahana, chapitre 22, rapporte une histoire avec un homme qui habitait la ville de Tzidon, qui avait épousé une femme conformément à la Torah et qui vivait avec elle depuis 10 ans sans avoir eu le mérite d'avoir des enfants. Le couple alla trouver Rabbi Shimon Bar Yochai et lui demanda de les divorcer avec un guet conformément à la loi de la Torah dans un tel cas. Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, au même titre que vous avez célébré votre mariage avec un grand festin, ainsi vous ne pouvez pas vous séparer l'un de l'autre tant que vous ne faites pas un festin. Ensuite, nous organiserons la rédaction et la remise du guet et vous vous séparerez l'un de l'autre. Le couple accepta et ils organisèrent le soir même un grand festin comme au jour de leur mariage. Lors du festin, le mari dit à sa femme, « Je t'autorise à prendre un objet de la maison en souvenir. Choisis l'objet que tu désires et prends-le avec toi chez ton père. » Pendant le festin, l'épouse fit boire son mari des boissons alcoolisées jusqu'à ce qu'il s'enivre et s'endorme. Elle demanda ensuite aux domestiques de la maison, « Portez-le dans la maison de mon père. » Les domestiques s'exécutèrent. Au milieu de la nuit, le mari se réveilla après avoir cuvé son alcool et il constata qu'il se trouvait dans une maison qui n'était pas la sienne. Il demanda immédiatement, « Où suis-je ?» Son épouse lui répondit, « Tu es dans la maison de mon père. » Pardon. Le mari demanda, « Pourquoi suis-je ici et non dans ma maison ?» La femme répondit, « Ne m'as-tu pas dit de prendre de la maison la chose que je veux garder en souvenir ? C'est toi que j'ai choisi de prendre. » Le mari se calma et au matin, ils se rendirent tous les deux chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui écouta l'histoire et pria pour eux. Ainsi, la paix revint dans le couple, et 9 mois plus tard, ils eurent un garçon. Telle est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, cet homme qui fait trembler la terre, chanceler les empires. Mais toute cette force ne lui provient que de l'étude de la Torah à laquelle il s'est adonné avec une terrible assiduité, en s'isolant de toute occupation de ce monde. Il n'y a rien d'autre que les forces de la Torah. La perte occasionnée par une mitzvah vis-à-vis de la récompense qu'elle apporte. Au début, il semblait que Rabbi Shimon Bar Yochai perdait son monde, perdait sa vie. Mais il resta fidèle à sa vérité, au point de fuir et de se cacher dans une grotte où il étudia la Torah avec son fils Rabbi Elazar, jusqu'à ce que tout son corps fût rempli de plaies et de blessures en raison du sable dans lequel il s'enfonçait pendant qu'il étudiait. En fait, ils retirèrent leurs vêtements afin de ne pas les user et ils s'enfonçaient tous les deux dans le sable pour ne pas étudier la Torah en étant nus. Alors que ses compagnons, les autres compagnons d'études de Rabbi Shimon Bar Yochai étaient restés en dehors de la grotte et continuaient leur vie normalement, en étudiant aussi la Torah. Mais c'est parce que Rabbi Shimon Bar Yochai étudia la Torah avec une telle assiduité et dans des conditions aussi difficiles qu'il eut le mérite d'être un des plus grands Tannaïm, un des plus grands sages de l'époque de la Mishnah, et le maître de tous les sages de la Kabbalah, de l'explication mystique de la Torah. Il eut aussi le mérite que tout ce qui sort de sa bouche est appliqué. Il réalisa des miracles et de grandes merveilles. Il est enseigné dans le Pirkei Avot. Rabbi dit, quelle est la voie la plus droite que l'homme doit choisir? Réponse, celle qui apporte pleine satisfaction à l'homme qui s'y engage, ainsi qu'aux autres. Ensuite, Rabbi continue son enseignement, il nous dit, sois vigilant aussi bien vis-à-vis d'une mitzvah qui peut paraître simple, aussi bien vis-à-vis d'une mitzvah qui peut paraître importante, car tu ignores la récompense qui correspond à chaque mitzvah. Ensuite, il nous dit, médite sur la perte que peut occasionner une mitzvah par rapport à la récompense qu'elle apporte, ainsi que sur le profit que peut engendrer une transgression par rapport à la perte qu'elle engendrera. Effectivement, parfois un homme accomplit une mitzvah et en conséquence, il engendre une perte. Par exemple, un homme va étudier la Torah durant 2 heures chaque jour, alors que s'il travaillait plus, il gagnerait plus d'argent, mais il étudie la Torah. Ceci représente l'enseignement « médite sur la perte que peut occasionner une mitzvah par rapport à la récompense qu'elle apporte ». L'homme médite sur lui-même. Combien est grande la récompense de l'étude de la Torah ? Il recevra une récompense infiniment plus grande vis-à-vis de ce qu'il a, entre guillemets, perdu. La sainte Torah, c'est ça la récompense. Comme c'est marqué, Orech yamim bimina bismola osher vechavod. À la droite de la Torah se trouve la longévité de la vie. À la gauche de la Torah se trouve la richesse et les honneurs. Notre maître le Rav, Maran, Rav Obadiah Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Baruch Hu, raconte un souvenir d'enfance. Il raconte, il dit, je cite, un administrateur de la yeshiva de Porat Yosef, qui s'appelait Rabbeinu Politi, me raconta que lorsqu'il vivait à Istanbul en Turquie, il possédait une fabrique de tissus et il avait une grande réussite au point d'être devenu très riche. À proximité de son commerce, un non-juif ouvrit lui aussi une fabrique et un magasin de tissus et de vêtements, mais Rabbeinu Politi ne portait aucune attention à lui. Un jour dans l'après-midi, un général de l'armée turque pénétra dans le commerce de Rabbeinu Politi. Il lui dit, « Monsieur, j'ai sous mes ordres 50 000 soldats. Et j'ai besoin de vêtements pour tous. Je désire vous les acheter. Montrez-moi la marchandise et dites-moi votre prix pour les vêtements. » Rabbeinu Politi répondit, « Monsieur, Excusez-moi car il est maintenant 17h. Et l'on m'attend à la synagogue, nous prions Mincha. Faites-moi plaisir et attendez-moi juste 20 minutes, je prie et je reviens. » Le général lui dit « Non monsieur, je ne suis pas disposé, je dois voyager en urgence, je n'ai pas le temps. » Rabbeinu Politi lui répondit en s'excusant qu'il renonçait à l'affaire car il était tenu de se rendre à la synagogue. En sortant de son magasin, Rabbeinu Politi se dit « Je suis maintenant heureux, ma prière vaut 50 000 vêtements. » Le général entra dans le magasin du voisin non juif, propriétaire du commerce concurrent, et lui acheta 50 000 vêtements pour les soldats. Quelle grande perte, apparemment, pour Rabbeinu Politi. Moins de 3 mois plus tard, Rabbeinu Politi était assis dans son magasin quand soudain le général turc entra et lui dit « Regarde, tous les vêtements que j'ai commandés à ton voisin sont de très mauvaise qualité. Le tissu se déchire facilement, il s'agit de soldats, ils ont besoin d'uniformes solides. Même la couleur des tissus flétrit rapidement au soleil. Je désire donc commander de nouveau des vêtements, mais uniquement de toi. » Rabbeinu Politi lui montra le tissu et il trouva tellement grâce aux yeux du général qu'il lui paya une somme infiniment supérieure au prix qu'il aurait payé la première fois. Car à présent, il s'agissait d'une véritable affaire puisque le général savait valoriser la marchandise du juif. Ceci représente l'enseignement médite sur la perte que peut occasionner une mitzvah par rapport à la récompense qu'elle apporte. Ceux-ci ne sont que les fruits, entre guillemets, de la récompense, consommés dans ce monde-ci. Mais le capital de la récompense est préservé pour le Olam Haba dans le monde futur. Que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai nous protège, comme nous le disons dans le Piyut Bar Yochai, et sa Torah nous protège, elle éclaire nos yeux, il intercède favorablement pour nous, notre maître Bar Yochai. Extrait du Piyut Bar Yochai.